Restons encore sur le titre de votre bouquin, hein, Le choc de l'islam, qui s'oppose au thème des chocs de civilisation de Huntington. Depuis le 11 septembre, hein, c'est là que vous partez, le 11 septembre, ce choc du 11 septembre, on a l'impression qu'il y a une certaine peur qui s'est installée chez nous, en Occident, face à un islam. On ne sait pas très bien, on a peur. Alors, on va jusqu'à nous dire que ça y est, il y a un fascisme vert qui nous menace, qui va nous envahir. On a un peu l'impression, vous qui avez étudié et écrit beaucoup sur l'Union soviétique, qu'on est en train de remplacer la vieille peur face aux communistes par une nouvelle peur qui est face à l'islam, l'islamisme, une espèce de nouvelle terreur.
Oui, il y a de cela. Mais il ne faut pas identifier tous les musulmans à l'islamisme. On peut être musulman sans être islamiste.
Mais d'abord, comment vous expliquez cette peur ? Est-ce que
on va y arriver. On va y arriver. Cette peur, elle vient de loin. Elle vient de loin. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi, dans le monde de l'islam, il y a maintenant des islamistes qui, d'une certaine façon, inspirent cette peur. Et le titre, le choc de l'islam, peut être compris aussi dans un autre contexte. Si nous ressentons aujourd'hui le choc, soit de la montée de l'islam, de la renaissance de l'islam, soit le choc vraiment guerrier, hostile, d'hostilité d'une partie de l'islam, l'islamisme intégriste de Ben Laden et de quelques autres, il faut bien comprendre que ce choc, nous le ressentons, mais que c'est un choc en retour. C'est un choc en retour en ce sens que ce sont les mondes de l'islam qui ont d'abord subi le choc de l'Occident. Ils sont nourris d'une colère, d'une frustration, d'un ressentiment terrible qui, pour autant que ils ont connu un, deux, trois traumatismes, n'est-ce pas, qui sont quand même extraordinaires. Le premier traumatisme, c'était quand même la colonisation.
Alors, ce que vous dites, c'est qu'avant cette colonisation, c'était l'inverse.
Avant, c'était l'inverse.
C'était nous qui étions ignorés, voire méprisés par l'islam.
Exactement. Et puis, il y a eu un retournement qui s'est opéré à partir du 18e siècle, si vous voulez, 18e, 19e, et peu à peu, grâce à la technique militaire, grâce aux idées des Lumières, etc., les mondes de l'islam ont compris que pour ne pas être dominés, et ils l'ont été quand même, faute de s'être régénérés, n'est-ce pas, pour ne pas être dominés, il fallait qu'ils se réforment. Et la réforme a pris plusieurs aspects. Mais pendant qu'ils voulaient se réformer, l'Occident, qui avait une avance technique et aussi une avance politique, en ayant des projets politiques plus complexes, l'Occident a en quelque sorte frappé le monde de l'islam d'un certain nombre de coups dont aujourd'hui il essaye de se relever. Je dirais, il a, contre les coups qu'il a reçus, un ressentiment qui continue. Alors, faut quand même rappeler la colonisation d'abord, hein. La colonisation, c'est quand même quelque chose qui...
Alors ça, c'est le début du 19e.
C'est le début du 19e, ça a commencé même un peu avant, parce que les Russes ont été les premiers à dissoudre l'empire des Tatars, puis, etc., n'est-ce pas? Ils ont occupé la Crimée dès le 18e, hein. Il faut pas oublier les Russes. Parce que nous voyons ça avec nos yeux, n'est-ce pas? Alors nous, la colonisation du monde de l'islam, c'est 1830 de l'Algérie. Mais les Russes étaient déjà en Crimée en 1780. Et puis les Espagnols étaient aussi au Maroc, à Tétouan et ailleurs. Et puis alors ensuite, il y a eu les Français, les Anglais, etc. Et si on prend le monde de l'islam dans son ensemble, on s'aperçoit qu'il a été cerné. Il a été cerné depuis l'extrême ouest, Maroc, jusqu'à l'extrême est, Indonésie. Il a été cerné jusqu'au moment où, 1920, il est arrivé au cœur de la naissance de l'islam, c'est le monde arabe.
<t'en>